Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me. Now the children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone. And the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
where's the little dinosaur?
I didn't think
where's
he'd really
the
go.
Little dinosaur?
Where's that?
Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2, c'est l'heure des bébés dinosaures. Pas de roucoulement ce soir, Tommy Boy, mon collègue, est en vadrouille, je serai tout seul pour pousser les disques. Les bébés dinosaures n'est pas une émission scientifique, loin de là, c'est une émission sur le rock'n'roll des années 70, enfin le rock au sens très large. Et donc vous retrouverez les rubriques habituelles. On reparlera un petit peu de Creedence, qui était notre groupe de l'année. Jusqu'à Halloween dernier, donc on en aura nouveau pour l'année qui vient, à partir de ce soir jusqu'à Halloween 2023. On parlera encore un petit peu donc de Creedence et de ce que sont devenus nos héros de cette année écoulée. Et puis il y aura la rubrique Dig It, la rubrique Fromage de Chèvre, la rubrique Folk, hein, je vous rassure. C'est pas une rubrique où on balance à travers les ondes du Québec Koufi. Et puis un petit peu de tout, à vrai dire. Et pour démarrer, un morceau pour faire un petit peu le lien avec la Foire des Ténèbres qui vient de s'achever, dont le thème était les Rockfield Studios. Et bon, on s'est écouté un morceau d'un album enregistré en partie au Rockfield Studio. Un album de Kingdom Come, le groupe d'Arthur Brown. Je crois qu'il y en a parlé d'ailleurs notre collègue dans son émission. Il a dû passer un extrait d'un autre disque. Là, c'est l'album Galactic Zoo Dossier. J'ai pas du tout retrouvé le morceau que j'avais prévu de passer. J'avais prévu d'en passer un il y a déjà quelques semaines et depuis j'ai oublié. Alors c'est pas grave, on va utiliser la méthode Tatane. Si vous ne connaissez pas encore la méthode Tatane, c'est celle que Tatane, c'est un des, avec Benoît, c'est un des tenanciers du magnifique magasin de disques Armadillo, rue Pharaon à Toulouse, et il a longtemps participé à l'émission Dig It, bien sûr, à laquelle on rend hommage dans les bébés dinos dorénavant toutes les semaines. Et donc la méthode Tatane pour passer un disque, c'était « Oh bah écoute, t'as qu'à mettre le premier hein. ». Donc on va s'écouter le premier morceau de l'album Galactic Zoo Dossier du Kingdom Come d'Arthur Brown, enregistré donc en partie en tout cas au Rockfield Studio, Pays de Galles.
The plane needed to come, and there before it was thousands of people. Absolute thousands of people, and these people looked up towards the heaven, and there before them was the Lord, the Christ.
He was there! Yes, he was there!
You have sinned against the Lord. I am your master, and thou shalt be cast into the
which is above all of us, shall preach forevermore because we are immortal.
Enchaîné avec le suivant. C'était donc le premier morceau du premier album de Arthur Brown's Kingdom Come, un groupe qui a sorti quand même 4 ou 5 disques, enfin 3 dans les années 70 en tout cas. Et puis il y a un live paru bien des années plus tard, assez récemment d'ailleurs, je crois, en 2017 apparemment. Voilà, Galactic Zoo Dossier, donc ce premier album de. Des trois albums de Arthur Brown Kingdom Come, c'est Arthur Brown's Kingdom Come plus exactement, Ce premier morceau s'appelait Internal Messenger. Et ça donne une idée quand même de ce qu'était le Kingdom Come d'Arthur Brown, c'est-à-dire une espèce de groupe progressif, mais bien barré quand même. Et Arthur Brown, bien sûr, son gros tube, c'était Fire. C'était le gars qui se promenait sur scène avec une espèce de cercle enflammé dans les cheveux et qui poussait des braillantes terribles. Et il continue à brailler avec le Kingdom Come sur une musique un petit peu plus quand même, on va dire, complexe et parfois complètement barrée. C'est pas toujours facile d'accès quand même. Des fois, il y a des morceaux où ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a des bons moments aussi. Donc l'album s'appelait Galactic Zode aussi. C'était son premier en 71, premier de ce groupe-là en tout cas. On continue avec des Britanniques toujours. Un petit peu plus tardif, peut-être pas forcément tout à fait notre période, mais quand même un groupe qui s'est créé au milieu des années 70 et qui est apparu au premier festival punk de Mont-de-Marsan en 76. Tommy Boy nous en parle souvent, il y était. Et ce groupe-là était peut-être le plus ténueux de tous, hein, finalement, même s'ils n'ont jamais été totalement catalogués punk. C'était sans doute parmi les plus punk des groupes de pub rock, on va dire ça comme ça. Donc vous avez reconnu, c'était Eddie and the Hot Rods, bien sûr. Le premier album, Teenage Depression, qui est quand même un de leurs morceaux marquants. Un autre morceau, il y en a beaucoup sur cet album qui sont vraiment rentre-dedans et prenants. Comme celui qu'on va s'écouter qui s'appelle Double Checking Woman. C'est donc Eddie and the Hot Rods en 77.
Well, I feed her, I need her, I never really leave her, but she's always double checking just to find a place.
Côté Credence hein, sur ce morceau juste après The End of the Troads. On vient de s'écouter non pas Credence mais Tom Fogerty, le frangin, un des membres de Credence dans le début de sa carrière solo. Donc, que sont-ils devenus nos amis de Credence après la fin du groupe? Ils ont splitté en Santégrand, quelque chose comme ça. Et Tom Fogerty était déjà parti, hein, il ne participe pas au dernier album du groupe. Mardi Gras, qui est un album assez raté, à vrai dire. On avait raconté tout ça. John Fogerty s'était fâché avec son frangin. Son frangin trouvait que. Tom trouvait qu'il prenait trop de place, qu'il laissait passer les autres s'exprimer. Et donc, ils ont fini par se fâcher tous les deux. Tom est parti et John Fogerty a dit aux autres, surtout Cook et Doug Clifford, bah, allez-y, les gars, composez, puisque c'est comme ça. Et puis je chanterai pas sur vos morceaux, je jouerai que de la guitare, et puis si vous n'êtes pas content, ben je quitte le groupe tout de suite. Et Creedence a sorti donc cet album Mardi Gras, sans Tom Fogerty, qui est un album complètement raté. Ils ont tourné quand même encore un peu en trio, d'ailleurs ça donnait lieu à un album live qui n'est pas terrible non plus. Et puis le groupe a splitté, et Tom Fogerty est parti dans une carrière solo sur Fantasy, le label de Creedence. Il sortira plusieurs albums... carrière, alors au niveau commercial pas forcément très, très fructueuse, mais en tout cas avec une production quand même tout à fait respectable, hein. C'est des albums qui sont tout à fait honnêtes, il y en a 5 ou 6. Une des particularités d'un de ces albums, en tout cas le troisième qui s'appelait Zephyr National, c'est qu'il a réuni tout le groupe sur au moins un morceau. Mais Doug Clifford et Stu Cook qui participaient à ce disque, et John le frangin était revenu alors sur un morceau, donc on retrouvait le line-up complet de Creedence. Mais John Fogerty avait enregistré les bandes à part, il n'était pas dans le studio, hein. Pas question de se retrouver les autres, ils étaient fâchés à mort à ce moment-là. Bon, il semblerait quand même que John Fogerty se soit réconcilié avec son frangin au bout d'un certain temps, et que peu de temps avant sa mort, avant la mort de Tom Fogerty, bon, ils étaient. À nouveau, disons, avec des relations à peu près correctes. Il est mort en 90, Tom Fogerty. Il est mort de complications liées au sida. En fait, il a contracté le sida après une transfusion sanguine. Et il en est mort donc en 90. À l'enterrement de Tom Fogerty, John a prononcé un discours et il a dit, entre autres, on avait deux rêves avec Tom dans la vie. Faire de la musique... Et grandir, grown up, je sais pas comment on peut grandir, c'est peut-être un peu faible, mais s'accomplir quoi, grandir. Ouais. Et puis il a dit, bah, on a réussi au moins un de ses buts en devenant des rockstars, mais je crois qu'on n'a jamais vraiment grandi. En tout cas, c'est quand même pas mal qu'ils se soient réconciliés avant que Tom meure. Donc carrière solo respectable de Tom Fogerty, mais... Comme ce morceau vient de l'indiquer, il s'appelait Lady of Fatima, c'est sur son premier album solo donc pour Fantasy en 72, un album qui n'a pas de titre. C'est quand même en dessous de ce que pouvait faire Creedence, et la voix de Tom Fogerty n'était pas non plus aussi marquante que celle de son petit frère. Rappelons quand même qu'au tout début de leurs aventures, à tous les quatre, il y a eu Tommy and the Blue Velvets. C'était même avant les Gollywogs, donc c'était au tout début des années 60. Le Tommy, bah, c'était Tom Fogerty, donc c'était le chanteur. Et c'était le leader en fait du groupe. C'était le grand frère. Et John Fogerty, son petit frère, et puis les deux autres étaient très très jeunes. Et donc c'était lui qui avait pris un peu le groupe en main, il chantait. Mais c'est vrai que la voix de John était quand même beaucoup plus marquante et elle a pris nettement le dessus par la suite. Donc, les deux autres, Doug Clifford et Stu Cook, bah, ils ont continué aussi. Mais alors, bon, au niveau production discographique, disons, il y a un album solo de Doug Clifford qui s'appelle Cosmo, sorti en 72, que je ne connais pas. Il a surtout fait des productions quand même. Il a produit notamment Doug Sam, notre ami Doug Clifford. Et Stu Cook lui aussi se fait connaître comme producteur. Alors attention, il a produit Rocky Erickson, le fameux album. Comment s'appelait-il le premier album, merde. Alors j'ai oublié le titre. Le premier album de Rocky Erickson avec les Aliens. C'est un album fantastique qui est produit donc par Stu Cook. Il a aussi joué dans Southern Pacific, une espèce de groupe country qui a eu un certain succès d'estime, on va dire, peut-être un peu aussi financier, on va dire, mais bon, qui n'était pas marquant. Et puis, tous les deux, on les a retrouvés au milieu des années 70, avec, dans le Don Harrison Band, avec au moins deux albums. C'était le groupe de Don Harrison, qui était guitariste, compositeur, composé la plupart des originaux. C'était pas terrible quand même, hein. C'était une espèce de classique rock mélangé avec des trucs plus roots. C'était pas mal aussi, hein. C'est pas honteux, mais enfin c'est pas génial. Mais on va quand même s'écouter un petit morceau du Don Harrison Band, un de leurs tubes qui était une reprise d'ailleurs par Merle Travis, 16 Tons. C'est sur l'album, le premier album, je pense, du Don Harrison Band. Ça doit être en 76. Il y en a eu un deuxième, bon, qui n'était pas génial non plus. Et Don Harrison a fait un album solo après, puis il est disparu. En tout cas, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Donc, le Don Harrison Band, bon, ça permet de retrouver la rythmique de Creedence. Avec ce morceau 16 Tons, qui est pas mal du tout, mais qui n'est pas de... Sur donc leur premier album en 76.
Back there strong, and I was born one morning, the sun didn't
Sixteen Tones, Merle Travis repris par le Don Harrison Band avec Doug Clifford et Stu Cook, rythmique de Creedence, c'était en 76. Et il y a un petit son Creedence aussi dans ce morceau, quand même, c'est assez net. Bon, il y a quelques bons titres sur ces deux albums, mais après le reste, c'est assez anecdotique quand même. Et John Fogerty, ah ben lui. Donc le groupe s'est dissous en octobre 72 en fait, parce qu'ils avaient quand même fait une tournée après Mardi Gras, une tournée aux États-Unis. Et le groupe s'est dissous. John Fogerty a sorti un premier album solo en 73, toujours sur Fantasy, le label de Creedence, mais pas sous son nom, sous le nom de The Blue Ridge Rangers. On l'a souvent passé ce disque, c'est que des reprises country, des reprises blues. Très très bon disque, où il joue à peu près tous les instruments. Mais il ne voulait pas mettre son nom dessus. Alors je croyais que c'était pour un problème de droit, etc. Mais non, apparemment, c'était son choix de ne pas mettre son nom. Il a été réédité plus tard avec une nouvelle pochette sur laquelle son nom apparaissait en gros, bien sûr. Et puis après, il a essayé de rompre son contrat avec Asylum, parce qu'avec Fantasy, donc le label historique de Creedence, parce qu'il leur devait 8 autres albums, semble-t-il. Et il s'était fâché avec le boss du label. Donc il a essayé de rompre son contrat, ça a duré un certain temps, et finalement c'est le boss de Asylum Records, justement David Geffen, qui aura des démêlés avec Neil Young notamment, David Geffen qui va racheter le contrat de John Fogerty et lui permettre de sortir son premier album solo, disons sous son nom, le appelé donc John Fogerty tout simplement, en 75. Et alors là c'est un album... Bon, sans doute quand même un peu meilleur que ce qu'avaient fait ses autres acolytes en solo. Et notamment, c'est l'album qui contient le tube Rockin' All Over the World. Il y a des tas d'autres bons morceaux quand même sur ce disque. Bon, après, il va y avoir des relations assez difficiles avec ses anciens collègues. Des réconciliations aussi. Je crois que dans les années 80, il a rejoué avec Stu Cook et Doug Clifford. Il n'y avait pas Tom, mais il y avait les trois membres originaux des Blue Velvet, avant que ça s'appelle Tommy and the Blue Velvet, parce qu'au début, Tommy, le grand frère, n'était pas dans les Blue Velvet. Donc c'était une soirée hommage aux Blue Velvet, et ils avaient rejoué tous les trois. Mais sinon, le groupe, avec les quatre membres, ne s'est jamais, semble-t-il, réuni par la suite. Et en plus, dans les années 90, il y a eu une autre grosse fâcherie, parce que Doug Clifford et Stu Cook ont formé Creedence Clearwater Revisited, un groupe de reprise de Creedence en fait. Et alors ça n'a pas du tout plu à John Fogerty, il leur a coulé un procès sur le dos, enfin, il y a eu des tas d'histoires, donc ils se sont fâchés définitivement. Et toutes les autres rumeurs de reformation un jour de Creedence ont été balayées. En plus, Tom est mort en 90, bon. Mais par la suite, on a reparlé encore de possibilités de reformer Creedence. John Fogerty même semblait être un peu plus ouvert à reformer Creedence avec les trois membres survivants, bien sûr. Mais les deux autres, Doug Clifford et Stu Cook, ont toujours dit « Non, 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 on aurait pu faire ça il y a 20 ans, il y a 25 ans, alors maintenant c'est trop tard. » Et donc Creedence ne s'est jamais reformé. Le John Fogerty, il a fait une carrière solo quand même assez fructueuse, avec un gros hiatus entre 75, donc l'album qu'on va s'écouter là, et puis le suivant, c'était 10 ans plus tard, en 85. Et alors là, c'était l'album Centerfield qui a eu un énorme succès, qui moi me parle un peu moins bien que ce premier album de 75, mais bon, il a eu un énorme succès. Par la suite, il en a sorti plein d'autres, je crois, 7 ou 8 autres. Le dernier, c'est en 2020. Donc une carrière solo quand même assez, ma foi, assez prolixe, on va dire. Avec des bonnes choses, mais souvent des choses un peu... Enfin, ses meilleurs morceaux sont ceux qui rappellent un peu Creedence, et c'est jamais à la hauteur de ce qu'a été Creedence, évidemment. Donc on va revenir sur cet album de 75, son premier album solo sous son nom, et le morceau qui ouvre l'album, et le gros tube, Rockin' All Over the World, ça fait toujours du bien à s'envoyer dans les oreilles. Juste que je ne trompe pas de platine, ça doit être par là.
Rockin' all over the world. Yeah. Hell, giddy up and giddy up.
Rockin' All Over the World, repris par Status Quo, me semble-t-il. C'était John Fogerty, donc en 1975. You Rascal You, ça c'est une reprise bien sûr, Vieille Canaille, adaptée en français sous le titre de Vieille Canaille. You Rascal You, c'est un autre moment, un autre bon moment de cet album solo donc de John Fogerty en 75. Eh bien, l'année Creedence s'est terminée et là on va commencer une nouvelle année. Avec qui? Alors tiens, je vais vous donner quelques indices. Il a démarré en 58, son premier groupe, c'était en 58, The Jades. Il a joué dans The Primitives, The Roughnecks, les Surfsiders. Et puis, il a connu un premier groupe qui est resté totalement mythique et très célèbre, mais qui à l'époque était totalement obscur en fait, qui a vendu très peu de disques de leur vivant, qui en a vendu beaucoup, beaucoup par la suite. Un groupe un peu arty, du côté de New York, chaperonné par un artiste de renom. Et puis ensuite, il a démarré une carrière solo, il a collaboré avec des gens tout à fait prestigieux. Il a eu un groupe de scène qui ensuite est devenu le groupe de scène du début de la carrière solo d'Alice Cooper. Ah ! Alors, bon, tout le monde a deviné, je pense. Et pour donner un indice plus précis, on va s'écouter un de ses morceaux. Donc c'est avec lui qu'on va passer toute l'année jusqu'à Halloween 2023.
One, two, three, four. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Ooh, bong, 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 satellite of love. Bong, 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 satellite of love. Bong, 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 satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Ooh, bong, 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 satellite of love. Hey, baby, bong, 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 satellite of love. Bong, 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 satellite of love. Satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Ooh, ooh, ooh. Bong, 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 satellite of love. Bong, 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 hey baby, satellite of love. Bong, 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 satellite of love. Satellite of.
Oui, c'est Lou Reed, donc, qui va nous accompagner jusqu'à Halloween prochain. C'était le morceau Satellite of Love, mais c'est une version live, hein, vous avez entendu. Un peu spécial qui est sur la tournée qui a suivi la sortie de l'album Transformer. Ça a été, il me semble, un de nos albums classiques qu'on a dû explorer du début jusqu'à la fin il y a quelques années. Excellent album solo, deuxième album solo de Lou Reed. Et il a fait une tournée en suivant la sortie du disque avec un groupe qui s'appelait The Tots, qui n'a, semble-t-il, jamais rien enregistré. C'était des jeunes, des gamins là, qui l'avaient dégoté, qui étaient, je sais pas, de la région de New York, je suppose. Je l'ai su d'où ils venaient, mais j'ai oublié. Et donc, ils l'ont accompagné sur deux tournées, semble-t-il, en 72 et en 73. Et au cours de l'année 73, il va changer de groupe de scène, et c'est là que vont débouler Steve Hunter, Dick Wagner, toute la bande, mais ça, on en reparlera. Et parmi les concerts de cette tournée avec les Tots, il y en a un qui a été enregistré, qui a eu lieu à New York en décembre 72, et qui est paru, alors, de manière officielle, je ne sais plus trop en quelle année, sous le nom de American Poet. Je pense qu'il était paru en pirate aussi, sous différents titres, mais il a connu une sortie officielle. Et c'est un album tout à fait excellent, avec des versions très brutes, très, très roots, d'une bonne partie de l'album Transformer, plus quelques morceaux un peu plus anciens du Velvet. Donc c'est un très bon témoignage, disons, des débuts live de Lou Reed en solo, quoi. Avec ce groupe mystérieux là, qui n'a apparemment jamais rien sorti, les Tots. Donc c'était une version de Satellite of Love, enregistrée à New York en 72. On va changer de registre là, on va s'écouter un peu de Bette Davis. Alors ça j'ai choisi Bette Davis ce soir après avoir vu la série Le Monde de Demain, qui est parue, je ne sais pas si elle a été diffusée sur Arte. Oui, elle a été diffusée sur Arte, enfin nous on l'a vu sur le replay là, mais elle a été diffusée là, ces dernières semaines sur Arte. C'est en fait l'histoire des débuts du hip-hop en France et notamment l'histoire de NTM. Je peux pas dire que je suis un grand fan de rap, de hip-hop et de NTM, mais pourtant j'ai trouvé la série assez prenante, très très bien jouée, et ma foi, inspirée semble-t-il, enfin collant d'assez près à la réalité de ce qu'a été les débuts un peu chaotiques et turbulents de cette scène rap, hip-hop en France, avec semble-t-il pas mal d'anecdotes. Qui sont vrais, quoi. Enfin, après avoir interviewé les différents héros de cette épopée, les réalisateurs se sont permis de mettre un petit message en début de chaque épisode, disant que toutes les situations étaient réelles, enfin avaient été vraiment vécues par les protagonistes, même si de temps en temps ils avaient un petit peu transformé légèrement la réalité. Donc il y a une anecdote là, semble-t-il, qui est sans doute réelle, c'est lorsque l'acolyte de Joey Starr, qui s'appelait Cool Chain, enfin qui se faisait appeler Cool Chain, qui s'appelait de son vrai nom Bruno Lopez, puisqu'ils étaient en gros, enfin c'était trois dans NTM au début, et les deux qui ont été là tout au long de la carrière de NTM, c'était Joey Starr et Cool Chain. Et donc Cool Chain rencontre une copine qui est graffeuse aussi, qui s'appelle Lady V, qui a vraiment existé aussi, bien sûr. Et il va, elle vit avec sa mère, et il rencontre sa mère, donc pour la première fois, il est invité à manger chez Lady V. Et sa mère, la mère de sa copine, donc, qui découvre le nouveau copain de sa fille, lui fait écouter un morceau de Bette Davis, en lui disant, tu vois, Bette Davis, elle était mariée à Miles Davis, hein, mais pas très longtemps. Et puis elle a divorcé parce que Miles Davis trouvait qu'elle était trop sauvage, trop barrée, trop indépendante. Et tu vois, après, elle a fait une carrière solo. Et ce qu'elle a fait de mieux, c'est quand elle était toute seule, tu vois. C'était une femme indépendante, c'était une femme caractère. Le morceau s'appelle Anti-Love Song. Et elle regarde fixement Cool Chain en lui faisant comprendre qu'elle transmet un message, là, un message très fort. C'est une scène assez rigolote. Et donc, Cool Chain se fait tout petit et comprend qu'il ne faudra pas qu'il déconne avec Lady V, évidemment. C'est pour cette raison et pour rendre hommage à cette série, ma foi, assez réjouissante quand même, Le Monde de Demain, qu'on va s'écouter Anti-Love Song sur le premier album de Bette Davis. C'était en 73.
No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. To my heart, you'd scorch it just like a hot iron. Whoa, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Love you.
digging by Georgie Wood. And now we'd like to do Are the Angels Come?
Hop là, la rubrique Dig It. Alors c'est la rubrique Dig It que j'avais prévu de faire la semaine dernière. Pas la semaine dernière, il y a 15 jours même, puisque la semaine dernière je n'étais pas là, c'est Tommy Boy qui a tenu la baraque. Et il y a 15 jours j'ai accompli l'exploit de venir à l'émission en oubliant mes disques. Et donc, enfin ma poche, hein, mes disques, ma clé USB, mes CD, tout quoi. Et donc, j'avais prévu de vous passer du King Salami, parce qu'il y a 15 jours, il y avait King Salami qui était en ville, le dimanche soir, le soir même des bébés dinos. Donc, on avait prévu de passer King Salami pour prévenir, vous, les auditeurs, que quand même, c'était vraiment pas la peine d'écouter les bébés dinos, qu'il valait mieux aller, je sais plus où c'était, au Taquin, je crois, pour aller voir King Salami et Martin Savage. Bon, j'avais oublié mon disque, j'ai pas pu le faire. Et donc, 15 jours après, je vous passe King Salami qui était en ville, donc il y a 15 jours, pile. Et on va s'écouter un extrait de son dernier album, me semble-t-il, celui qui est sorti en 2019. Je ne sais pas s'il y en a eu depuis. Il s'appelait Kiss My Ring. Et le morceau que j'ai choisi, oh, c'est un morceau tout à fait sauvage. Ça s'appelle Oofty Goofty, Wild Men of Borneo, King Salami and the Cumberland Three. On les aimait beaucoup à Dig It.
Now here it is. According to this map, we should be able to capture the wild man of Borneo right here.
Born in the jungle of Borneo. Now I'm the king of the freak show. I'm the wild man.
He's the wild man.
I'm the wild man.
He's the wild man.
I'm the wild man of Borneo. They lock me up in a heavy cage. Behind the bar, this my stage. Covering top from head to toe. I'm number one freaking Frisco. I'm the wild man.
The wild man.
I'm the wild man.
The wild man.
I'm the wild man of Borneo. Mirror me right through the fan. Beat me up again and again. I'm your ghost of vision, don't be no pain. I'm a wild man.
He's a wild man.
I'm the wild man.
He's a wild man.
I'm the wild man of Borneo. I'm a wild man.
Well, I'm afraid we'll never get the wild man of Borneo now.
Ah, ça, ils sont pas prêts à le choper. Oofty Goofty, the wild man of Borneo. Par King Salami and the Cumberland Three sur son album Kiss My Ring en 2019. Eh bien, on va revenir aux 70s et une autre chanteuse à forte personnalité qui a eu aussi une carrière un peu météorique comme Betty Davis. Betty Davis a fait quand même 3 albums. Le quatrième est resté dans les tiroirs et est paru beaucoup plus tard. Marsha Hunt en a fait 2. Mais par la suite, elle a continué quand même à faire parler d'elle. Activiste, romancière. Je crois qu'elle a été... Elle était réalisatrice, me semble-t-il. En tout cas, elle était dans le milieu du cinéma aussi. Enfin bref, un peu hyperactive. Et ces deux disques restent assez marquants. Alors surtout le premier, sans doute, qui s'appelait Woman Child. On en a pas mal parlé, où elle était chaperonnée un peu par Mark Bolan. Et un disque sur lequel jouent des tas de stars du rock 70, enfin du rock du début des années 70, du rock britannique du début des années 70. Beaucoup de reprises sur cet album aussi, beaucoup de reprises de Mark Bolan, et notamment le morceau Desdemona qu'on va s'écouter maintenant, et qui était en fait, qui datait de l'époque avant T-Rex, avant même Tyrannosaurus Rex. C'était à l'époque où il était dans John's Children. Il n'est pas resté très longtemps, Mark Bolan, mais il aura écrit quand même quelques morceaux, dont celui-ci qui est sans doute un des plus connus de ce groupe, qui n'a pas eu une carrière très longue non plus, hein, en fait. Je ne sais plus, un album, quelques 45 tours, je ne me rappelle plus vraiment. Mais Desdemona était un des 45 tours, un de ceux qui ont marché. Et là, on va s'écouter donc la reprise par Marsha Hunt. Et après, on reviendra un petit peu sur Mark Bolan, ou en tout cas sur un hommage qui a été rendu à Mark Bolan il y a quelques années. Donc, Marsha Hunt en 60. Alors, le 45 tours est sorti en 69. Et l'album Woman Child en 71. Donc, ça, c'est la version de l'album, je ne sais pas. Je pense pas qu'elle soit différente de celle du single, en fait. Donc, à la fin des années 60, Marsha Hunt reprenant John's Children, Desdemona. Desdemona, donc reprise de John's Children, un groupe auquel a participé Mark Bolan avant de former Tyrannosaurus Rex, puis T-Rex, Et donc c'était sur son album, où, enfin 45 tours de 69 d'abord, puis sur l'album Woman Child en 71. Et ben on va retrouver un hommage à Marc Bolan qui est paru en 93, qui s'appelle The Marc Bolan Festival. Ça a été organisé en Allemagne, à Darmstadt, en mai 92. Et on retrouvait à l'affiche une incarnation tardive de John Stillwell, avec, semble-t-il, deux des membres originaux. Alors, pas Marc Bolan, hein, qui est mort, qui était mort depuis longtemps, hein, malheureusement. On y retrouve un groupe qui s'appelle The Cheapers, qui fait des reprises de T-Rex. Lauren Steele aussi, qui reprend T-Rex, je ne connais pas. Hein. Kun and the Gang, je ne connais pas non plus. Avec il y a un morceau que je connais pas, parmi ceux qu'ils font, puis un autre c'est qui est une reprise de Bolan, je suppose que l'autre aussi. Hein. Et puis Nicky Sedone. Ah, Nicky Sedone, quand même, les Jacobites, etc. Carrière tout à fait magistrale. Voilà. Un des héros de Digit aussi, hein, Nicky Sedone. Voilà. Il était venu à l'émission, il était venu à Toulouse. Il avait joué avec les Jacobites, on les avait hébergés, ça a été quelque chose de d'assez mémorable, passer une soirée avec les Jacobites. Et là, il était donc parti en Allemagne avec. Il est accompagné par un autre musicien qui s'appelle Boss Bouvreur, je ne sais pas trop qui c'est celui-là non plus. Et il a fait un set de reprise de Marc Bolan, hein, c'était un grand fan bien sûr de Bolan et T-Rex. Et donc tout ça est paru sur un CD en 93 sur le label Zincaloy Records. Zincaloy, c'est le début du titre d'un album de T-Rex qui devait s'appeler Zincaloy and the Hidden Riders of Tomorrow. Un album un peu tardif, 74, ça doit être le, je sais pas, le 8 ou 9e album de T-Rex. Zincaloy, c'est un label qui en fait sortait des raretés ou des choses en rapport avec Marc Bolan et T-Rex. Il n'y a pas sorti beaucoup de disques, une petite dizaine, quelque chose comme ça. Et donc ce Marc Bolan Festival, oh, c'est assez intéressant quand même. Les Cheapers, là, on se réécoutera peut-être. Leurs deux versions de Metal Guru et Life's a Gas sont plutôt pas mal. Et Nicky Sedone, lui, bien sûr, avec sa voix inimitable, dans des versions très, très acoustiques, très, très cheap, très roots. Il fait plusieurs reprises de T-Rex, on va s'écouter Cosmic Dancer. Donc Nicky Sedone avec un acolyte en 92 sur l'album The Marc Bolan Festival. Cosmic Dancer.
This song is called Cosmic Dancer. Dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I danced myself into the womb. I danced myself into the womb. I was dancing when I was 8. Dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? I was dancing when I was 8. Oh, what's it like to be alone? I liken it to a balloon. Dance myself into the tune. I dance myself into the tune. And then again once more. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. What's it like to dance so late? I was dancing when I was 8. what's it like to be a man? To try and hold onto some girl's hand. I dance myself into your tomb. I dance myself into your womb. Oh my.
Say a word for Ginger. He won't. feet from his feet and threw the poor boy out into the street. And then he said,
c'était le Velvet Underground, le groupe où s'est illustré Lou Reed pendant des années. Le dernier album sur lequel il est présent, le quatrième album du Velvet, Loaded en 70, qui est un album un peu à part. Enfin, les trois premiers ont une certaine unité. Là, Mo Tucker, la batteuse, n'était pas là, elle était en scène, je crois. Doug Yule, qui n'est pas un membre d'origine, il me semble, n'était pas là au tout début, qui est arrivé à l'époque du deuxième album, je pense, avait pris un peu les choses en main. En tout cas, il jouait de la guitare sur ce disque, mais il jouait de la batterie aussi à la place de Mo Tucker. Alors, avec d'autres musiciens aussi, d'autres batteurs participent à cet album. Et il chante une partie du morceau. Une partie chantée par Lou Reed. Le morceau a été écrit par Lou Reed, mais c'est Doug Yule qui chante. Alors évidemment, ça n'a pas tout à fait la même... comment dire, il n'y a pas tout à fait le même charisme que Lou Reed, il faut bien avouer. Il y aura un cinquième album du Velvet en 73, mais qui est plutôt un album solo de Doug Yule en quelque sorte, puisque tous les autres membres historiques du groupe étaient partis ou avaient été virés, quoi. Donc on peut considérer que Loaded est le dernier album du Velvet, c'est ce que considère Lou Reed aussi d'ailleurs, hein. Ce qu'il considérait en tout cas. Mais ce Sweet Nothing a quand même quelque chose de prenant. Et il y a quelques bons morceaux sur ce disque, Loaded. Bon, on parlera du Velvet, hein, pendant toute l'année consacrée à Lou Reed, donc jusqu'à Halloween 2023. En attendant, on va s'écouter d'autres héros new-yorkais. Bon, il y en a eu plein, hein. Mais parmi tous ceux qui nous tiennent à cœur, les New York Dolls ont une place quand même un peu à part. Et donc on va s'écouter à nouveau les New York Dolls et à nouveau un de ces lives plus ou moins pirates, mais qui ont connu aussi par la suite des versions plus ou moins officielles. Celui-là est paru sous plein de titres différents. Là, je l'ai sous le nom de Paris Burning, donc enregistré à Paris, hein, au Bataclan en 73. Et la première version éditée de ce pirate, c'était en 84. Il y en a eu plein d'autres par la suite. Le son est plutôt pas mal. Je pense qu'on en a déjà écouté des extraits, si je me souviens bien. En tout cas, là, on va s'écouter Jet Boy, les New York Dolls, donc, en 73 à Paris.
Les Jet Boys. Thank you.
Your boy's fly. Don't you know he's gone? Cause I should have been gone. Gone, gone, gone. I bet he was fly. 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 I bet he can't carry.
Les New York Dolls, live au Bataclan 73, Jet Boy. Oulala, c'est l'heure du jingle maudit des bébés dinos. Attention, c'est parti. La rubrique fromage de chèvre pour conclure, c'est bébé dinosaure. La rubrique folk des bébés dinosaures, une tradition à laquelle on ne peut renoncer. Et avant de vous présenter celui qui offrira cette petite ration de fromage de chèvre, je vous rappelle que les bébés dinosaures, c'est sur Canal Sud 92.2 tous les dimanches de 21h30 jusqu'à 23h, avec une rediffusion le lundi à partir de 15h30, c'est ça, 15h30 le lundi. Sinon vous pouvez aller sur le site de Canal Sud, canalsud.net, et vous trouverez des centaines d'émissions à réécouter, podcaster, à télécharger. Et vous pouvez même aller sur le site Facebook des bébés dinosaures, où vous trouverez aussi des centaines d'émissions, enfin des tas d'émissions en tout cas, avec les playlists hein, quand même. Des fois, il vaut mieux jeter un œil avant d'écouter. Et Tommy Boy est en vadrouille la semaine prochaine aussi, donc je reviendrai pousser les disques. Et on se retrouvera dans 15 jours normalement. Enfin, Tommy Boy, lui, sera de retour. Moi, c'est pas encore sûr que je sois là dans 15 jours, mais on en reparlera. Je vais vous laisser avec Lou Reed. Allez, alors vous me direz, Lou Reed et le folk, bon, c'est pas forcément évident, mais figurez-vous qu'il y a eu un objet discographique très étrange qui est paru en 2021 et qui était en fait qui était titré RCA Acoustic Demos, donc de Lou Reed. Et en fait, il s'agissait, comme son nom l'indique, de démos acoustiques enregistrées en 71. Mais qui, enfin, ce disque, je pense qu'il est paru en numérique. Hein, enfin, en tout cas, il n'est resté disponible qu'une seule journée, semble-t-il. Et ploup, ça a disparu. Alors, il semblerait que ce soit une espèce de ruse par rapport aux droits d'auteur. En Europe, il y a une règle quelconque, une loi quelconque qui a fait que ce gros label s'est senti obligé de publier pour une raison ou pour une autre ces démos, sans doute pour pouvoir en garder les droits. Je ne sais pas exactement quelle est la ruse derrière, mais bref. Donc, après une seule journée, ça n'a pas empêché certaines personnes de sauter dessus. Et donc, elles circulent à nouveau ces démos sous des formes un peu pirates, hein, on va dire. Et c'est des démos donc enregistrées en 71, avant l'album Transformer de 72, à l'époque du premier album solo de Lou Reed. Et dont on parlera, Transformer c'est le deuxième, donc c'est des morceaux essentiellement du premier album. Enfin, en tout cas sur la version que j'ai de ces démos acoustiques, mais ça on en reparlera aussi, Et on va s'écouter donc une version acoustique du morceau Going Down, qui se retrouvera ensuite sur le premier album. Si je me souviens bien, il n'était pas très content de la production de ce premier album. Peut-être que finalement, ces versions acoustiques, c'est Lou Reed avec sa guitare, quoi, hein, lui aurait mieux convenu, j'imagine. Donc c'est des démos restées inédites pendant très longtemps, paru en 2021 de manière subreptice et puis récupéré et disponible maintenant sur le net. On s'écoute ce morceau Going Down de Lou Reed, donc futur extrait de son premier album solo, mais dans sa version acoustique, et vous allez voir, c'est du folk. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau bébé dinosaure.
When you're in a dream and you think you got your problems all nailed down, pieces of the scheme seem to rattle up and then to rattle down. And when you start to fall and those pieces, they start to fade, then you know you're going down. Yeah, you're falling all around. Whoa, and you know you're going down for the last time. When you're in the air and you think you'll drift off into the west, polite advice, you're pushing too hard and perhaps you need a rest. And when you start to fall and all those footsteps start to fade, then you know you're going down. Not what it seems. It's only something when you're all alone in this world. Everything it seems would be brighter if your nights were spent with some girl. Yeah, you're falling all around and you know you're going upside down. That is it.
Now here.
Since he's gone.